zététique. Peut-elle casser des briques?
Quoi?
Non, je sais.
Un toast aux exploités pour l'extermination des exploiteurs.
Le savoir est une arme d'instruction massive.
Ouais, tu calmes.
Souviens-toi que c'est les vainqueurs qui rédigent les livres d'histoire.
Une épitaphe pour quelques copains.
Non, je sais.
Et c'est parti pour la rubrique zététique. Alors avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, on voulait, parce qu'en l'occurrence celle-ci, je ne l'ai pas préparée collectivement. Je voulais revenir sur trois petites choses. Le premier truc, c'était un erratum, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de l'émission précédente sur la lecture d'articles scientifiques, où je me suis rendu compte que j'avais un peu simplifié à la fin en fusionnant la partie discussion et la partie conclusion d'une étude. Alors ça paraît pas très grave, je pense. Mais voilà, c'est dit, dans la partie discussion d'une étude, ça cause de la portée, la solidité des résultats, ça pointe les limites qui restent, etc. Et puis la partie conclusion, ça conclut, quoi. Je sais pas trop comment le dire autrement. Voilà, il y avait juste ce petit erratum. Le deuxième point, c'était qu'on reçoit du courrier des auditeurs et des auditrices, imaginez-vous. Incroyable. Bon, en fait, j'ai reçu un mail à propos de Didier Raoult, alors je relais. Alors, il semble que Didier ait rejoint la rédaction de Front Populaire, qui est la nouvelle revue de Michel Onfray, que l'on peut sans conteste qualifier de souverainiste, au moins, voire d'autres qualificatifs. Faites-en ce que vous voulez, mais ça dit quelque chose du bonhomme, quoi. Et enfin. On voulait vous dire que, alors là du coup c'est plus collectif, qu'il faut pas hésiter à faire des retours sur les articles et les rubriques radio du groupe Zététique, soit via le blog en commentaire, via le chat, via l'adresse mail radio.sansnous@cma-pdll.org, par SMS, par téléphone, par pigeon voyageur.
Et c'est valable sur toutes les émissions de radio globalement.
Absolument. Mais là c'est des rubriques Zététique, alors c'est un retour du groupe Zététique. Non. Mais et du coup ça nous nourrit pas mal parce que c'est pas évident de savoir si le ton est juste, si on s'étend pas trop sur des détails ou que on va trop vite ou est-ce que c'est clair, est-ce que les sujets sont pertinents ou pas. Et des fois il peut tout à fait se trouver qu'on dise de la merde, qu'on se trompe, et donc ces retours là ils sont aidants. Voilà. Alors le sujet du jour à proprement parler. Le 28 avril, lors de son allocution, Édouard Philippe a annoncé « Le confinement aura permis d'éviter 62 000 décès sur un mois ». Et donc, c'est de cette affirmation qu'on veut discuter. En se demandant d'où vient ce chiffre, d'abord, est-ce qu'on peut vraiment affirmer ça ? Et on va en profiter pour évoquer un peu l'utilisation politique de la science. Alors, ce chiffre, Édouard le sort pas de son chapeau, mais il le sort d'une étude menée par trois épidémiologistes, comme vous voulez, de l'École des hautes études en santé publique, EHESP, à Rennes. Donc, du coup, c'est une occasion pour nous de tenter d'appliquer les conseils qu'on a voulu donner dans la dernière émission sur comment et pourquoi aller lire un papier scientifique soi-même. Alors déjà, trouver l'étude, elle n'était pas si compliquée à trouver. Les journaux la mettent en lien directement dans leurs articles. Elle était accessible gratos, sans problème, donc c'est plutôt pas mal. Du coup. Alors, le HESP, c'est quoi? Je fais une rapide recherche, j'ai pas grand chose à en dire. C'est une école publique qui fait de la recherche, qui forme les cadres supérieurs en santé publique. Les trois chercheurs qui ont mené l'étude, après une recherche sur Google Scholar, on leur trouve à chacun différentes publications. Pour l'un d'entre eux, quelques interventions sur France Culture et France Inter, mais rien de vraiment notable. Du coup, on passe et on aborde l'étude en elle-même. Alors l'étude, l'abstract, donc qui est la première partie d'une étude, là le résumé, ça nous renseigne déjà sur un point crucial, c'est que il s'agit dans cette étude de comparer l'évolution de l'épidémie sous confinement avec l'évolution de l'épidémie dans un scénario où on n'aurait pris aucune mesure particulière. Autrement dit, on n'évalue pas le confinement versus ce qu'on aurait pu imaginer faire d'autre. Alors il y a d'autres études qui le font. Qui essaye d'imaginer qu'est-ce que d'autres mesures auraient permises. Mais voilà, alors autant l'étude elle est très claire là-dessus, de dire il n'y a aucune ambiguïté, c'est bien, on compare le confinement à rien. L'ambiguïté elle arrive dans la bouche d'Édouard Philippe, Et on a là un bel exemple d'utilisation de la science pour justifier des décisions politiques, a posteriori en l'occurrence. Tel que présenté, c'est frappant, du genre « heureusement qu'on a confiné, sans ça on aurait perdu 62 000 personnes de plus ». Ben pas forcément. Une formulation plus correcte, peut-être, ça aurait été de dire « une étude biostatistique estime qu'on aurait perdu 62 000 personnes de plus si l'on n'avait rien fait ». Et c'est déjà pas la même chose. Seulement, ben, l'objectif plus ou moins conscient du gouvernement, c'est d'asseoir le bien fondé de son action, et présenté comme ça, cette étude-là, elle tombe à point. Cela étant dit, passons au reste de l'étude. Alors, en résumé, les chercheurs ont construit un modèle mathématique qui reproduit et prévoit le développement de l'épidémie sans aucune mesure particulière. Ce qu'on attend d'un modèle, c'est qu'à minima, il reproduise le plus fidèlement possible ce qui s'est déjà passé. Quand on lui rentre les données des premiers jours de l'épidémie, on veut qu'il puisse prédire, entre guillemets, les jours suivants correctement. Et ça, on peut s'en assurer puisqu'on a les données. Dans l'étude, il nous donne les données région par région comparées aux prédictions que le modèle fait. Ça semble plutôt coller pas mal. Ça colle même très bien pour la plupart des régions, avec une exception notable pour la Corse, où on voit que ça colle pas très très bien. Ça s'explique assez bien parce que là, il y a très peu de cas, en nombre absolu, il y a peu de cas en Corse. Et donc ça explique qu'il y a une grande dispersion des points sur le diagramme. Si un jour il y a 10 cas et si un jour il y a 0 cas, ça fait des grands écarts sur le diagramme, donc forcément la courbe elle suit pas bien le truc. C'est super facile de vous expliquer tout ça sans visuel, c'est génial. Mais bon, passons. Par ailleurs, dans la partie discussion, ils font référence à d'autres études qui semblent confirmer une partie de leurs résultats en utilisant d'autres types de modèles. Donc ça fait déjà deux raisons de se dire bon, ok, leur modèle est peut-être pas trop foireux, on arrive à voir que ça colle à peu près avec les données qu'on a sur la période qui s'est déjà passée. Et il y a d'autres manières de modéliser l'épidémie qui produisent sensiblement le même genre de résultat. Alors en partie parce qu'il n'y a pas d'étude qui a fait exactement la même chose qu'eux sur les mêmes données et sur la même période. Je ne suis pas du tout expert dans le domaine de la biostatistique, ni même de la statistique en général, ou même des mathématiques tout court en fait. Du coup ça va être tendu de comprendre quelque chose aux formules qui gouvernent le modèle. Par contre, on peut essayer de regarder ce que les chercheurs ont choisi comme critère, ce qu'ils ont retenu comme données pour construire le modèle, et essayer de porter un regard critique dessus. Donc, allons voir ce qui est pris en compte et ce qui n'est pas pris en compte dans ce modèle. Alors déjà, c'est plutôt un modèle qui, à moi en tout cas, ne m'apparaît pas très simpliste, trop simpliste. Il prend en compte pas mal de données qui sont compartimentées et spatialisées, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il prend en compte la dynamique épidémique dans chaque région qu'il considère séparément, et en considérant séparément pour chaque tranche d'âge, qu'est-ce qui se passe. C'est pas un espèce de truc fait au global. Alors, dans les données qu'ils prennent en compte, ils regardent ce qu'on appelle les données d'incidence et les données de prévalence. Les données de prévalence, c'est les données qui concernent les cas existants, et les données d'incidence, c'est les données qui concernent les nouveaux cas. Donc, dans les données d'incidence, ils regardent les admissions quotidiennes dans les hôpitaux, ils regardent les admissions quotidiennes dans les unités de soins intensifs, et ils regardent le nombre de morts à l'hôpital chaque jour. Dans les données de prévalence, donc celles qui concernent les cas existants, ils regardent le nombre de lits déjà occupés dans les unités de soins intensifs. Ensuite, ils compartimentent leur modèle en 17 tranches d'âge régulières, sauf la dernière qui s'étend à toutes les personnes de 80 ans et plus. Ils utilisent un système un peu complexe pour différencier les personnes asymptomatiques, présymptomatiques, symptomatiques et hospitalisées, symptomatiques et pas hospitalisées. Et ils vont comme ça faire l'évaluation de différencier en fonction de ces quatre catégories, l'évaluation de à quel point est-ce que ces personnes contaminent d'autres personnes, etc. Donc ensuite, ils ont dû paramétrer le modèle de transmission du virus dans la population. Alors, on peut retenir que à partir de la littérature scientifique sur le sujet, ils se sont arrêtés sur les données suivantes. Ils ont considéré que la période d'incubation était de 5,1 jours. Ce qui est relativement court, moi, il me semble, mais voilà. 5,1 jours pour la période d'incubation. Ils ont considéré que la période pré-symptomatique, où l'on est susceptible de transmettre, c'est-à-dire on n'a pas encore les symptômes, on est malade, on est en train d'incuber et on peut transmettre, et ben ils ont estimé cette donnée-là à un peu plus de 2 jours. Ça dure 2,3 jours. ils ont considéré que la durée où on était symptomatique était de 8 jours. Et ils ont fixé le temps qui passe entre l'apparition des symptômes et le moment où on est diagnostiqué à 1,5 jours. Tout ça, ça leur sert à évaluer combien de temps les gens transmettent dans quelles conditions. Alors moi, ces durées-là qu'ils ont retenues, elles ne me semblent pas, au vu de ce que je comprends, au vu de la littérature sur le sujet que j'ai vu, elles ne me paraissent pas particulièrement catastrophistes. Elles ne me paraissent pas exagérées, elles me paraissent plutôt correctes. Mais je peux me planter. Ensuite, ils se sont appuyés sur d'autres études pour déterminer la part de cas nécessitant une hospitalisation parmi les personnes symptomatiques. Essayer d'évaluer, bon, il y a tant de gens symptomatiques, dans les gens symptomatiques, il y en a combien qui demandent une hospitalisation. Ils ont fait pareil pour estimer que 50, donc c'est-à-dire ils se sont aussi appuyés sur des études pour estimer que 50% des personnes exposées au virus sont asymptomatiques. Enfin, ils ont estimé que les personnes asymptomatiques étaient 90% moins contagieuses que les personnes symptomatiques, en se basant encore une fois sur une autre étude. Ils ont fait des matrices, ce qu'ils appellent des matrices de contact interindividuels, donc d'essayer d'estimer combien de contacts contaminants ou potentiellement contaminants il peut y avoir à la maison, au travail et à l'école, en fonction de l'âge, en fonction des régions, la densité de population, etc. Ils ont estimé la durée d'hospitalisation, la durée de résidence en soins intensifs à partir des données qu'on avait, en différenciant combien de temps je reste si je meurs la durée avant sortie pour cause de décès et la durée avant sortie pour cause de rémission. Voilà. Bon, en gros, ils ont pris en compte plein de trucs pour faire un modèle compliqué qui semble plutôt bien décrire ce qui s'est passé pour la période pour laquelle on connaît les chiffres. Ils n'ont pas l'air, me semble-t-il, d'avoir artificiellement surestimé une donnée qui irait dans le sens d'un résultat catastrophique, mais quelque chose peut m'échapper. Cependant, il y a des choses qu'ils n'ont pas pris en compte, et ils n'ont pas pris en compte consciemment. Ils estiment seulement le nombre de morts à l'hôpital. Ils ne parlent pas du nombre des décès dans les EHPAD ni chez soi. Ils estiment ne pas avoir assez de données à ce moment-là pour faire un truc correct, donc ils ne parlent pas de ces données-là. Donc on peut d'ores et déjà dire que ce modèle sous-estimera au moins cette partie des décès. Donc,
c'est pour ça que tu t'expliques ça comme consciemment ?
Oui, consciemment, ouais. C'est-à-dire qu'ils le savent, qu'ils ce n'est pas une erreur de leur part, ils savent qu'ils n'ont pas pris en compte ces données-là et que donc les 62 000 morts que Édouard Philippe annonce, dans tous les cas, ça ne concerne pas ces décès-là. C'est que leur estimation de décès à l'hôpital pendant un mois. Ensuite, ils considèrent qu'une personne diagnostiquée et hospitalisée ne transmet plus le virus. Or, d'après ce que j'ai compris, le personnel soignant se fait quand même pas mal contaminer, donc c'est une nouvelle raison de penser que leurs résultats sont sous-estimés. C'est un autre, en tout cas, facteur de sous-estimation. Alors, viennent alors les résultats. Ils estiment que 670 000 personnes auraient dû être hospitalisées sur le mois en question, s'il n'y avait eu aucune mesure, dont 150 000 auraient nécessité des soins intensifs, et dont 100 000 auraient nécessité des soins intensifs en même temps, le même jour. Alors, pendant une période, pendant plusieurs jours, on a 100 000 personnes en même temps en soins intensifs. Là où on a, semble-t-il, moins de 10 000 places de soins intensifs en France. Autrement dit, 9 malades sur 10 nécessitant des soins intensifs n'auraient pas pu être pris en charge sur cette période. Or, cette donnée-là, elle n'est pas prise en compte dans l'étude. Ils font comme si la capacité des unités de soins intensifs était illimitée. Ils ne prennent pas du tout en compte la surmortalité liée à la saturation des hôpitaux. Il me semble que c'est le paramètre qui sous-estime le plus la mortalité dans leur étude. Quelqu'un qui a besoin de soins intensifs et qui n'y a pas accès, n'a plus beaucoup de chances de guérir toute seule, il me semble. Que ce soit pour le Covid ou pour autre chose, je ne crois pas que les gens aient cessé de faire des infarctus ou de développer des cancers depuis le début du confinement, et du coup ça rajoute encore des morts à la pile, si j'ose dire. Enfin, leur modèle, il s'arrête le 19 avril de manière arbitraire, parce qu'il fallait bien qu'il s'arrête quelque part. Ils ont considéré un mois, du 19 mars au 19 avril. Et ils estiment qu'au bout de ce mois, 23% de la population aura rencontré le virus. Là où nous, là, on doit être autour de 3% au 19 avril, je crois. C'est de cet ordre-là. Je ne vais pas vérifier. Mais toujours est-il que 23%, on est loin de l'immunité collective ou d'un déclin de l'épidémie. On peut donc penser qu'elle continuera sur sa dynamique encore un moment. Et quand on sait que dans leur modèle, le 19 avril, le dernier jour donc du modèle, on a pour cette seule journée 10 000 décès à l'hôpital, que la dynamique, elle veut que ce chiffre, il augmente en se multipliant par 2 tous les 4 à 5 jours, on comprend que cette épidémie, désolé Didier Raoult, c'est pas une petite grippe. Ça fait un peu plus de morts. Donc pour résumer, ils estiment que 74 000 personnes seraient mortes du Covid à l'hôpital sur un mois, là où on en a eu 12 000 sur la période. Et ils estiment ça sans prendre en compte la surmortalité liée à la saturation des hôpitaux, ni les décès en EHPAD, ni les décès à la maison. Ils considèrent que quelqu'un hospitalisé ne transmet plus. Et ils estiment que les personnes asymptomatiques étaient peu contagieuses. Et ils arrêtent le modèle en pleine ascension exponentielle. Alors, j'ai pas pu tout comprendre de ce papier. Et il me reste des questions, il me reste une chier. Qu'est-ce que vaut leur simulation des contacts interindividuels, par exemple? Est-ce que les formules qu'ils utilisent sont correctes? Est-ce que l'intervalle de confiance dont ils font part dans leur tableau est suffisant pour penser que les résultats sont solides? Il faudrait que je mette le grappin sur un mathématicien ou une mathématicienne ou quelque chose qui s'en rapproche. Ça tombe bien, il y en a un qui traîne au groupe zététique. Au boulot, Léo. En attendant, on peut aussi faire la déduction suivante. Leur modèle produit une courbe exponentielle qui poursuit la dynamique à l'œuvre avant que les effets des mesures prises se fassent sentir. Donc si on prend cette courbe de l'épidémie jusqu'au 30 mars, à peu près le moment où on voit les trucs s'infléchir, et qu'on la continue sauvagement et empiriquement sur la même dynamique exponentielle, on arrive à peu près, il me semble, au même résultat. Et du coup, faute de mieux, dans l'attente d'en savoir plus, moi, ça me permet de trouver leur modèle plutôt crédible. Pour conclure, je dirais que je ne m'attendais pas à ça. Quand je suis allé foutre mon nez là-dedans, je ne m'attendais pas à ce que, pour éviter un certain nombre de biais et d'incertitudes, ils choisissent un modèle à ce point-là prudent, et que les 62 000 morts semblent être largement sous-estimés. Il est tout à fait possible que je sois passé à côté de choses essentielles, mais je trouve pas de critiques radicales faites par d'autres sur la méthode de cette étude. Alors si vous en avez, faites-moi suivre, ça m'intéresse vraiment. Et les articles de vulgarisation de cette étude que je trouve confirment plutôt la lecture que j'en fais là. Il en va pas moins que, comme dit au début, Édouard Philippe en fait une utilisation politique très à propos. Il s'en sert pour justifier d'un bloc la nécessité absolue du confinement, sans aucune autre possibilité, la définition qu'ils font du confinement, son extension répressive, arbitraire, injuste, au nom de milliers de vies sauvées. Et donc, voilà, moi je nous invite à différencier autant que faire se peut les études scientifiques de l'utilisation politique qu'en est faite, hein, parfois. Voilà, pour moi, je mettrai les sources en conclusion de... sur le blog pour que vous puissiez aller regarder. Est-ce que ça vous donne envie de réagir, les copains? Ou le chat?
Eh ben, peut-être on peut mettre une petite page musicale et on voit s'il y a des réactions.
Ça marche. Ouais.
Radio sans nous, Covid-19.
Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
Soy yo. c'est Radio Sans Nous.
Non, prenez des notes, hein, parce que je vais pas répéter. Hein.
Un témoignage à faire passer, une info à diffuser ou du temps pour filer un coup de main, bienvenue. Envoie-nous un mail à radio.sansnous@cma-pdll.org.
Comment ? J'ai pas compris. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Tu veux participer à une radio d'éduc pop ? Bah rejoins-nous.
Ah ça c'est vrai, ça vous intéresserait pas de participer ?
Ah mais c'est pas possible ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai.
Alors, est-ce que la petite rubrique zététique a suscité des réactions dans le chat ou voilà en live. Et sinon, eh bien, on va s'arrêter par là. Hein. Ah, j'entends plus personne.
Ça y est, je suis revenu.
On t'entend. Eh ben ouais, ça a l'air de pas... Bah c'est ce que logique, quoi. Il n'y a pas grand monde sur le chat.
On s'arrête par là, alors. Est-ce qu'il y a des petites annonces à faire passer de qu'est-ce qui se passe ces prochaines heures, prochains jours sur la radio ?
Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Eh bien, ce soir, il y a une émission pour les mômes, à 20h, comme tous les soirs. Demain midi, on se retrouve pour l'émission du midi. Peut-être dans la foulée il y aura un quiz Camelot, sinon ce sera vendredi.
Ou demain... Star Wars, parce qu'on ne sait pas trop non plus sur le quiz Star Wars. La semaine dernière, on analysait qu'il pleuvait, du coup les gens devaient être sous la couette en train de mater d'autres streamings, et du coup il n'y avait personne sur le quiz Star Wars.
Ouais. Demain on fait une scène ouverte, mais vous avez entendu le jingle dans cette émission, et puis voilà un peu pour nous.
Ouais. Et puis,
moi
là,
j'avais une. Vas-y.
Vas-y.
Non, ça concernait pas la radio. Donc vas-y.
Ok, bah sur la radio, juste là après, on va avoir la encore une playlist comme souvent le midi là. Et du coup, je sais plus si c'est la V8 ou la V9 de Gavroche qu'on écoute juste après.
Gavroche qui a dû être un de nos contributeurs les plus assidus quand même à cette radio. C'est assez cool. Et moi, j'avais juste une petite info qui vient de tomber. A priori, en tout cas, Macron plaide pour que les droits des intermittents du spectacle soient prolongés d'une année au-delà des 6 mois où leur activité est impossible ou très dégradée, c'est-à-dire jusqu'à fin août 2021. Donc, a priori, il y a des trucs qui sont en train de se tramer sur les conditions... de vie des intermittents, intermittentes, et la question de leur statut. Du coup, voilà, peut-être on ira rechercher les copains copines qu'on avait interrogés dans une émission du midi sur cette question-là, pour savoir ce qu'ils et elles en pensent.
Eh ben, bon après-midi à tous et à toutes.
Ouais. Salut. Salut.
Radio sans nous, radio sans nous. Radio sans nous, COVID-19.
Nous sommes en guerre. New boots.